Donc, on va parler des erreurs que nous commettons pendant notre construction. Je vais voir ici si le micro fonctionne. Les erreurs que nous commettons pendant la construction, c'est cela notre thème en fait. Les erreurs que nous commettons pendant notre construction. Et c'est très important. C'est cela dont nous allons parler pour ce soir. Quelles sont les erreurs que nous commettons pendant que nous construisons? C'est important. Si nous ne comprenons pas ça, eh bien nous allons nous retrouver dans des erreurs. Nous continuons avec, nous bâtissons avec, nous les cédons à nos enfants comme héritage et ils en souffrent avec ces mêmes erreurs. Comme nous, les parents. Donc, c'est pourquoi il y a de quoi à examiner par moment la vie et les erreurs que nous avions faites, que nous devons éviter de continuer à faire, afin de bâtir dans un fondement qui est solide pour que nos enfants ne viennent pas tomber dans cette situation. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, nous allons évoquer ici les erreurs que nous commettons pendant la construction de la vie. C'est cela le thème que j'aimerais bien développer avec vous aujourd'hui. La première des choses que je voulais signaler, la vie est une construction. La vie est une construction que nous faisons, mais sans que des fois nous en tenions compte. Et toutes nos erreurs que nous commettons dans la vie, pendant la construction, peuvent avoir des effets secondaires dans notre propre vie. Merci Jésus. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais commis d'erreur dans sa vie. Les erreurs sont humaines et nous les commettons tous les jours. Mais la seule chose que moi j'aimerais dire, nous devons savoir que même si nous commettons des erreurs, mais les erreurs ne doivent pas ne doivent pas rester sans correction en fait. Ça doit être corrigé. Les erreurs doivent être corrigées. Personne ne va dire qu'il n'a jamais commis l'erreur. L'erreur est humaine, comme on le dit en français. L'erreur est humaine. Nous le commettons tous les jours de notre vie. Parce que simplement dans la vie, on ne fait qu'apprendre. On apprend des choses chaque jour. Il y a des grandes erreurs et des petites erreurs dans la vie. Mais tous sont des erreurs. Mais les petites erreurs, ça passe facilement dans la vie. On les fait tous les jours, tous les jours. Et cela, c'est normal. Parce que nous ne sommes pas parfaits et nous ne sommes pas dans la perfection. C'est pourquoi nous commettons des erreurs chaque jour. Des petites erreurs, je vous l'ai dit. Mais les grandes erreurs, on ne les commet pas tout le temps. Ce sont des erreurs là qui ont des conséquences dans la vie. Les grandes erreurs ont très souvent des conséquences dans la vie à tel point que ça peut créer des problèmes dans notre vie. Très souvent, nous ne cherchons pas à comprendre nos erreurs, mais nous cherchons par contre à comprendre les boucs émissaires, c'est-à-dire qui est à la base de mon problème. C'est ça qu'on appelle les boucs émissaires. Qui est à la base de mes problèmes. Au lieu de chercher la solution au problème, mais on va chercher les boucs émissaires. Qui est le sorcier de mon problème? Qui est à la base de mes difficultés? qui est à la base de cet échec. Chaque personne dans sa vie a sa part de contribution dans son échec ou dans sa réussite. Même s'il y a des sorciers, mais chacun a une part qu'il a mis pour que le diable profite. Jamais Satan devait aller détruire la famille de Job si Job n'avait pas une part qu'il avait mis. Parce que Job était la première à dire, laisse-moi faire de sacrifice. Peut-être mes enfants ont péché et ils pourront faire. Peut-être mes enfants ont péché sans le savoir. Alors il va faire des sacrifices tout le temps et il les amène chaque fois après la fête. Il les appelle à les sanctifier parce que les enfants faisaient la fête chaque semaine. Donc il les appelait pour les sanctifier. À savoir qu'il avait 10 enfants. Donc chaque semaine ils avaient des fêtes. Donc il les sanctifiait. Mais lorsqu'il va dire cela, cette erreur va profiter à Satan. Et la réponse est dans Job 3, verset 25 à 26, quand Job dit, ce que j'ai pensé, ce qui m'est arrivé, ce que je connais, ce qui est arrivé, ce qui m'est atteint. Donc, il a eu une part dans ce qui lui était arrivé. Donc, il faut faire très attention. Très, très attention. Ecclésiaste dit une chose. Ecclésiaste 12, verset 1 à 3. Il dit, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Fais ce qui te semble bon dans ton cœur. Il dit, sache que fais ce qui semble bon dans ton cœur. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Mais il y a un temps qui va venir où tu vas dire, je ne prends plus plaisir. Parce qu'il y a un jugement en fait qui va venir. Alors il y a un temps où tu vas dire, je n'ai plus plaisir de toutes ces choses que j'ai faites. De ce temps-là arrivera, sans faute, dit la Bible. Ce temps-là arrivera, et quand ce temps-là arrive, tu vas dire, ah, je n'ai même plus besoin de toutes ces choses que je suis en train de voir maintenant. Parce que, simplement, tu n'as plus besoin de ça. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver dans notre vie. Que Dieu soit loué. Alors, nous avons besoin de comprendre les erreurs que nous commettons. Et ces erreurs-là peuvent nous coûter encore beaucoup plus cher dans la vie. Ces erreurs peuvent créer beaucoup de choses dans notre vie. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimé, il y a un temps où tu vas commencer à regretter toutes les erreurs que tu as faites. C'est ce temps-là dont parle Ecclésiaste 12, verset 3. Que le temps viendra où tu diras, je n'ai plus plaisir de faire tout cela. Parce qu'il y a un temps où on réfléchit, on se dit, mais pourquoi je dois continuer à faire ça? Ça ne sert à rien. Parce que tu comprends que le temps maintenant est arrivé où tu dois réfléchir si peut-être une autre chose dans la vie que de continuer à commettre les erreurs que tu avais commises. Ça, c'est des choses qui arrivent très souvent dans nos vies. Dieu soit loué. Donc, nous avons besoin de comprendre que la vie est une construction. La vie, je le répète, la vie est une construction qui commence dès le jour de la naissance. Les parents sont en train de te construire par les repas qu'ils te donnent, le lait maternel de maman, par l'encadrement de tes parents. Là, on est en train de t'instruire. On est en train aussi de bâtir ta vie. Et jusqu'à ce que toi-même, tu commences maintenant à évoluer avec tes idées, avec tes capacités, tu continues à bâtir la vie. La vie est une construction. C'est pourquoi la Bible dit, chaque maison est bâtie par quelqu'un, mais celui qui fait toutes choses, c'est Dieu. Hébreux 3, verset 4. Donc, toute chose est faite, chaque chose est faite par chacun, chaque maison est faite par chacun, mais toute chose, c'est Dieu qui nous soutient pour le faire. Donc, chaque vie est bâtie par quelqu'un. Ce qui veut dire que chacun de nous est artisan de sa vie. Ces affiches que je fais, vous allez voir en bas, toutes les affiches, je marque, tu es artisan de ta vie. Donc, chaque affiche que je fais pendant ces mois ici, j'explique pour te faire comprendre que tu es artisan. tu es constructeur, tu es architecte de ta vie. Parce que chaque personne peut poser la fondation dans sa vie. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, comme la vie est une construction, il faut savoir ceci. Chaque décision, chaque choix, chaque relation, chaque habitude, chaque parole constitue une pierre que nous ajoutons, dans la construction de notre vie. Je le répète pour que vous compreniez bien. Je dis ceci. La vie est une construction. La vie de chaque personne est une construction. Parce que Dieu dit dans le livre d'Hébreux 3 au verset 4, Dieu dit, chaque maison est bâtie par quelqu'un. Mais celui qui fait toutes choses, c'est Dieu. Ce qui veut dire chaque vie est bâtie par quelqu'un. Mais celui qui fait toutes choses, c'est Dieu. Ne dis pas, ce sont des sorciers, c'est mon père, c'est ma mère, c'est les ennemis. D'abord, le premier responsable, c'est toi. Mais chaque vie que nous bâtissons implique notre décision, nos paroles, nos actes, nos habitudes. Tout cela s'ajoute à notre vie. Pour construire la vie, nous devons savoir que chaque décision, comme je l'ai dit, chaque choix, chaque relation que tu entreprends, chaque habitude, chaque parole contribue comme étant une pierre dans la construction de ta vie. Donc tout cela, ça contribue comme étant des pierres dans la construction de la vie. Ce qui veut dire, personne ne se lève le matin et il trouve que la vie a déjà tout été fait. À part Adam, qui a vécu ça. À part Adam, il s'est réveillé, tout était déjà placé pour lui. Et la conséquence est que il est tombé. Parce qu'il n'a pas souffert avec ce qu'il a. Il n'a pas souffert pour trouver tous les matériels qui étaient à sa disposition. Les jardins d'Éden qu'on avait mis à sa disposition, Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden qui était déjà tout fait. Dieu l'a placé dans le jardin, il a pris la femme, il a amené la femme, donc il n'a pas fait d'effort même de chercher la femme. Tout, on lui a amené. La conclusion est que facilement il est tombé, facilement il a été manipulé par Satan, facilement il a perdu le jardin. Tout ce qui t'est donné facilement, sans que tu n'aies fait un effort, tu ne vas pas prendre soin de ça. Tu peux le perdre facilement parce que tu n'as pas pris soin de ça. C'est pourquoi Dieu commence la vie d'une personne toujours par un soir pour finir au matin. La Bible dit, quand Dieu créait le monde, Genèse 1, il y eut un soir et un matin, c'est le premier jour. Il y eut un soir et un matin, le deuxième jour. Il y eut un soir et un matin, ainsi de suite. Genèse 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, d'ailleurs jusqu'au verset 10, jusqu'au 31 d'ailleurs, tout, jusqu'au verset 31, c'est tout, c'est écrit toujours, il y eut un soir et un matin. Donc, Dieu, pendant les 7 jours qu'il a créé, chaque jour, il y avait un soir et un matin. Donc, Dieu ne commençait pas au matin pour finir au soir, mais il commençait au soir pour finir le matin. Une vie qui commence par un matin, qui finit le soir, c'est catastrophique. La vie commence par un soir et ça part par un matin. Un soir veut dire, ça commence par où tu n'as pas assez de forme, mais il faut que tu te façonnes dans l'ombre, dans la cachette. Et après, tu sors au matin, tout le monde te voit au public. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Luc, au chapitre 1er, verset 80. L'enfant grandissait et croissait dans le désert. Il se fortifiait en esprit jusqu'au jour qu'il fut présenté devant Israël. Donc, on grandit dans l'ombre. On se fortifie dans l'ombre jusqu'au temps où Dieu permet que tu puisses être au public, où tu puisses paraître au public. Et ça, c'est la vie. Donc, la vie, ça se construit. Personne aussi non plus n'est compétent de construire sans erreur. Donc, nous construisons tout avec des erreurs, mais quand nous construisons petit à petit jusqu'à ce que nous puissions donner la forme. Nous puissions donner la forme qu'il nous faut. Voyez? Donc, nous bâtissons progressivement, en fait. La vie, ça s'est bâti progressivement. Mais le problème, ce n'est pas le problème de bâtir, de comment tu bâtis. C'est ça. Ce n'est pas le fait de bâtir, mais de comment tu bâtis. Parce que Jésus nous montre, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 24 à 25, il nous parle de deux bâtisseurs. Un qui avait bâti sa maison sur les rochers. La fondation était posée sur les rochers. Un autre avait posé sa fondation sur les sables. Et toutes les deux maisons ont connu des tempêtes. Le vent a soufflé contre elles. Et bien, celle qui était bâtie sur les sables est tombée. Celle qui était bâtie sur les rocs est restée debout dynamique. Simplement parce que la fondation était solide. Le problème, ce n'est pas de bâtir, mais quel type de fondation que tu as posé. Pour que quand le vent vienne, pour que quand le vent souffle, que tu ne t'écroules pas. Vous ne pouvez pas vivre dans la vie sans connaître la tempête. Impossible. Jésus, fils de Dieu, a connu la tempête dans le bateau pendant qu'il traversait avec ses disciples. Il a connu la tempête. Vous ne pouvez pas connaître la tempête pendant le long des voyages. Vous les connaîtrez, vous la connaîtrez. Parce que la Bible dit, dans Ésaïe 43, verset 1 à 3, la Bible dit, si vous passez par les eaux, le feu ne va pas vous submerger. Si vous passez par le feu, il ne vous consumera pas. Parce que vous avez des prix aux yeux de l'Éternel. La Bible dit que même si vous passez par le feu, vous ne serez pas consumé. Si vous passez par les eaux, vous ne serez pas submergé parce que vous avez des prix aux yeux de l'Éternel. Cela veut dire, vous pouvez passer par le feu, vous pouvez passer par les eaux, mais puisque vous avez des prix aux yeux de l'Éternel, l'Éternel Dieu sera avec vous pour vous protéger. Il sera avec vous pour vous sauver. Une vie sans combat, sans obstacle, vous êtes tout droit ensemble avec Satan dans le même bateau. Parce que vous devez connaître les épreuves. Vous devez connaître ces choses. Cela prouve, teste votre solidité de la foi. Si la foi est solide ou pas. Le vent ne souffle pas pour renverser la maison. Mais le vent souffle pour tester la capacité, les racines, le fondement de votre vie. Et quand le vent souffle dans la forêt, c'est tous les arbres qui balancent, les grands comme les petits. Mais souvent, c'est les grands qui tombent et les petits restent debout. Souvent, les petits restent debout. Les grands tombent pour céder des places aux petits. Mais je vais te dire simplement, les vents peuvent souffler dans ta vie, mais ce qui est important, est-ce que tu as de vraies racines pendant que tu bâtis ta vie? Est-ce que tu as de vraies fondations? Est-ce que tu as de vraies racines? En fait, quand tu construises, que tu ne puisses pas aller de côté ou que tu ne puisses pas tomber. Ça, c'est l'élément à comprendre et qui est très important. Voilà, se rendu au Seigneur. Et quand tu bâtis aussi, il y a un deuxième danger. Premier danger, il faut savoir si vraiment tu as posé une bonne fondation. Un deuxième danger que je voulais expliquer, quand tu bâtis, le danger n'est pas dans le fait de bâtir ou de construire. Mais est-ce que tu construis selon le plan qui cadre avec le plan que Dieu a pour toi? Est-ce que tu bâtis selon le plan que Dieu a désiré pour toi? C'est aussi un problème. Si cela n'est pas le cas, alors tu bâtis en vain. C'est là où la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas, celui qui bâtit, bâtit en vain. Donc, il faut chercher à bâtir avec le Seigneur. Mais pour bâtir la vie, il y a les erreurs qu'on peut faire pendant notre construction de vie. Je viens de dire que la vie est une construction. Une construction. Et pendant la construction, on a besoin de matériel de construction. Oui. Les matériaux de construction. Quand on prend, on construit une maison, les matériaux de construction, on a besoin du sable, on a besoin du ciment, on a besoin des barres de fer, on a besoin de tout ce que vous connaissez pour la construction. Donc ça, c'est la construction d'une maison. Mais pour la construction de la vie d'une personne, la construction de la famille, la construction du couple, la construction de sa vie, de son avenir, on a besoin premièrement de la parole. La parole, la sagesse, ce sont des éléments clés. Pourquoi la parole? La discipline aussi. Ça, on va dire ça une autre fois. On en a déjà parlé, mais on va parler d'une autre manière. Premièrement, la parole. Pourquoi la parole? Parce que la parole, elle permet de pouvoir bâtir. La Bible dit que les fondations que Dieu a posées, par le pluriel, les fondements ou les fondations que Dieu a posées, restent debout avec les paroles qui les servent de sceaux. 2 Timothée 2, verset 19. Donc, les solides fondations ou fondements que Dieu a posés sont restés debout parce qu'il y a les paroles. Les paroles qui les soutiennent, les paroles qui les servent de sceaux, les paroles qui l'appuient. C'est pourquoi ils sont debout. Et la Bible dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Hébreux 1, verset 3. Donc, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Dernière partie d'Hébreux. Donc, si vous êtes posé sur les paroles de Dieu, sachez-le que Dieu vous soutiendra, quelles que soient les tempêtes que vous connaissez, mais vous êtes posé sur les paroles, Dieu finira par vous soutenir. Parce que les paroles de Dieu vont vous amener à être debout. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, bien-aimés, lorsque vous bâtissez aussi, vous avez besoin de la sagesse. La sagesse vous aide à bâtir. Proverbe 9, verset 1, la Bible dit, la sagesse a bâti sa maison. Donc, la sagesse bâtit la maison. Voyez, un homme sage bâtit aussi sa maison. Une femme sage aussi bâtit sa maison. Proverbe 14, verset 3. Une femme sage bâtit sa maison. Et Proverbe 24, verset 3. Une maison s'élève par la sagesse. Donc, verset 3, 4, 3, 5. Donc, à partir du verset 3, on dit qu'une maison s'élève par la sagesse. Donc, la sagesse aussi est un des éléments qui vous permet de pouvoir bâtir votre maison. La parole, la sagesse. Troisième élément à retenir, la discipline. La discipline, c'est un des éléments importants quand vous bâtissez. Quand vous bâtissez, il faut qu'il y ait la discipline. C'est-à-dire, la discipline, vous savez vous contrôler vous-même. Vous savez vous maîtriser. Vous savez comment se déterminer. Ne soyez pas comme une ville sans muraille, dit la Bible. La Bible dit, un homme qui n'est pas maître de soi, il est comme une ville sans muraille. Proverbe, le verset, je sais que c'est Proverbe. Je passe 25, je vais chercher ça. Donc, il faut savoir que quand il n'y a pas de discipline, on ne peut pas aller loin. Et l'apôtre Paul dit, ceux qui courent, ils courent tous pour obtenir le prix. Et Paul dit, courons de manière à remporter le prix. Et Paul dit ceci encore, je traite direment mon corps. D'abord il dit, ceux qui courent, ils courent pour remporter le prix. Et il s'impose une certaine discipline ou une certaine discipline. Il s'impose une certaine abstinence ou discipline. 1 Corinthiens 9, verset 24 jusqu'à 27. Il s'impose une certaine abstinence. C'est-à-dire, il s'impose une certaine discipline. Et il dit, je traite direment mon corps. Paul dit que je traite direment mon corps. Parce que le corps, c'est l'élément qui fait que lorsque tu construis, qui peut t'éclabousser pour ne pas rester dans la chose que tu es en train de faire. Parce que le corps a ses besoins. Le corps a ses émotions. Le corps a son âme, a ses pensées. Le corps a ses sentiments. Le corps a sa volonté de ses décisions. Tout cela, ça peut faire que tu échoues à cause de tous ces éléments. C'est pour dire que vous devez aussi vous discipliner. La discipline dans la façon de parler, dans la façon de boire, dans la façon d'agir, dans la façon de faire des choses, dans la façon de dépasser, j'en avais parlé déjà, de discipline dans plusieurs sortes, plusieurs aspects de vie. Cela est très important. Sinon, vous tombez comme Samson, malgré la force, mais sans discipline, il est tombé, il a perdu la force, Il a été pris comme un, lui qui était appelé puissant, mais il a fini la vie comme un jouet. On a dit, sortons-nous Samson pour qu'il puisse nous divertir. Parce qu'il avait perdu toute sa force à ce moment-là. Donc, il est devenu un jouet. Donc, il ne faut pas, si tu n'es pas discipliné, tu vas finir pour être un jouet chez tout le monde. Pareil aussi à Jean-Baptiste, un grand prophète, mais qui va finir la vie, la tête sur l'assiette. Parce qu'un enfant a demandé, donnez-moi la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'il manque de discipline. Au lieu de rester là où Dieu lui a dit, il va aller en ville pour aller parler au roi. Ne te mêle pas de choses de gens. Reste dans ce qui t'a été dit de faire. Ne va pas te mêler des problèmes de gens. Ne sois pas journaliste. Ne te mêle pas dans des problèmes de gens parce que tu vas avoir des problèmes pour rien. C'est ce qui a amené Jean-Baptiste à te couper la tête. Donc ça, ce sont des éléments, trois grands éléments que j'ai signalés pour construire, pour que vous devrez mettre en place. Il y en a beaucoup, mais ça, c'est les éléments de base. Maintenant, je parle des erreurs. Quelles sont les erreurs que nous commettons pendant la construction? Je vais citer les 10 erreurs. Après, je vais expliquer seulement 2. Le reste, pendant que je vais commencer mon séminaire de 3 jours de prière, vendredi, je pense que Dieu me permettra que je puisse commencer à expliquer certains éléments en prenant un peu par-ci par-là, si Dieu le permettra. Alors, la première erreur qui est dans la vie des êtres humains, la pression des autres. Mais je vais l'expliquer, ne vous en faites pas. Je donne seulement la pression, vous pouvez écrire la pression 1. La pression des gens qui sont autour de vous, la pression de la société, la pression de la famille, la pression de ceux qui vous entourent, la pression des parents, la pression peut être un élément qui peut détruire votre vie pendant que vous construisez. Mais j'en expliquerai profondément, ne vous en faites pas, parce que je vais expliquer plus ça. Deuxièmement, le manque de connaissance de soi. Le manque de connaissance de soi aussi peut faire aussi, peut devenir une erreur qui peut vous coûter dans la vie parce que vous ne savez pas ce que vous êtes et ce que vous avez. On expliquera tout ça. Il y aura un jour où on va expliquer tout ça parce que c'est long. Troisièmement, les décisions prises sous l'emprise des émotions. Souvent, quand vous prenez des décisions sous l'emprise des émotions, ça peut aussi vous coûter. C'est pourquoi Job a dit, dans Job 22, verset 27 à 28, la Bible dit qu'il priera le Seigneur, il t'exaucera. Mais à la décision que tu prendras, cela aura des réussites, cela te donnera du succès. Donc, la décision que tu prends, si cela est bonne, ça te donne du succès. Si cela est mauvaise, ça t'amène en difficulté. Donc, il ne faut jamais décider précipitamment. Il ne faut pas décider par des émotions. Il ne faut pas prendre des décisions par des émotions, mais restez calme. Réfléchis longtemps avant de prendre la décision. Parce que tu veux prendre la décision précipitamment, mais ça te coûte plus tard. C'est pourquoi faire attention pendant que tu construis la vie. Faire attention. Si tu es quelqu'un qui s'emporte à prendre la décision rapidement, écoute-moi, prenez le temps de réfléchir avant de décider. Sinon, tu décides, mais tu regrettes après la décision. Ça, c'est pas bon, mais ça, il y a aussi un enseignement sur ça. Je n'explique pas ça aujourd'hui. Bon. Quatrièmement, l'entêtement dans une mauvaise direction. C'est-à-dire, la direction qui t'a été demandée, ce n'est pas ça. On t'a déjà dit que cette direction n'est pas bonne. Mais tu veux t'entêter pour y aller. Nous allons voir les cas de Jonas. Jonas 1. Verset 1 à 6. Donc, la direction qui lui était donnée, c'était autre. Mais lui, il prend une autre direction. Malgré les avertissements de Dieu, mais il prend la direction d'aller à Tarsis. D'aller dans une autre ville qui ne lui a pas été envoyée. Et, vous connaissez la fin, il a été jeté dans la mer et le poisson l'a avalé. Donc, il ne faut pas s'entêter dans le chemin que Dieu ne veut pas pour toi. Vous pouvez aussi voir Balaam le prophète. Il était sollicité d'aller maudire les enfants d'Israël par le roi Barak. Nombre chapitre 22. Mais vous allez voir, 22, 23, 24, les trois textes parlent de toute cette histoire. Mais vous allez voir par son entêtement. D'abord, il a dit, je ne peux pas aller maudire ses pères parce que Dieu a dit. Ok. Et on lui envoie des gens avec des cadeaux. On dit, bon, le roi Barak a envoyé des gens avec des cadeaux pour lui dire qu'écoutez, si tu acceptes, tu auras une bonne place. Tu vas avoir ça, ça, ça. On lui propose tous les biens qu'il devait avoir. Vous savez, l'être humain est souvent corrompu par le matériel. Lorsqu'il a vu qu'on lui a proposé des matériels, des choses comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, ok, restez ici, je vais dormir, peut-être Dieu va me parler autrement. Il dort, Dieu lui dit, ok, va. Mais le va là de Dieu n'était pas un beau va. Va, va parce que tu ne m'as pas écouté, tu tentais ta partie, alors va. Va maintenant, tu vas voir ce qui va se passer. Dieu lui dit, va. Mais quand Dieu lui dit, va, qu'est-ce qu'il va mettre en chemin? Il met un ange avec le paix bruyant. Bruyante, pardon. Afin de les tuer en route. Donc Dieu a mis un ange dans le chemin où Balak allait pour qu'il puisse les tuer. Parce qu'il lui a dit ne va pas. Et mais comme il a entendu, on lui a proposé des cadeaux, des présents, tout de suite, des dons. Il dit maintenant, bon, restez peut-être, Dieu va me dire, va. Dieu dit, ok, va. Donc le va là, c'est mauvais. N'insistez pas sur quelque chose pour lequel Dieu vous a déjà parlé. En rêve. Par un ami, par qui que ce soit, il a déjà beaucoup parlé. N'insistez pas. N'insistez pas. Il va te dire va, mais ce n'est pas le va de Dieu. C'est pour aller t'amener à te détruire. Donc ce sont des erreurs graves là. Il ne faut pas insister sur quelque chose pour lequel tu sais que la direction est mauvaise. Des fois, tu y es attaché à quelque chose que Dieu ne veut même pas. Mais tu commences à prier pour ça. Tu présentes à Dieu. Dieu, je veux ça, Seigneur, aide. Hein? Dieu ne te voit pas dans ce chemin-là, mon frère, ma soeur. Arrête. Mais si tu continues, donc tu es en danger. Ce sont des erreurs graves de la vie. Ici, je parle des erreurs graves de notre vie. Que nous mettons pendant la construction. Que nous faisons pendant la construction. Cinquième, mais tout ça, je vais expliquer dans le fait, il y aura un jour. Parce que j'ai encore tout un mois pour, jusqu'au mois de septembre, que je vais changer le thème. Cinquième, la mauvaise gestion des temps. La Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Éphésiens 5, versets 15 à 17, ou 15 à 16. Rachetez le temps. Donc, il faut savoir aussi racheter le temps. Il faut éviter la procrastination. C'est-à-dire que, ce que tu voulais faire aujourd'hui, tu dis, je vais le faire demain, après demain, après demain. Non. Si tu as l'occasion, fais-le. Donc, il faut éviter de repousser, de repousser, de repousser. Ce n'est pas aussi bon. C'est une erreur aussi, ça aussi, dans la vie. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, 6. L'orgueil. L'orgueil qui amène quelqu'un à se croire. Il ne veut pas écouter parce qu'il a. Parce qu'il a une position. Et il ne veut pas considérer ce qu'on lui dit. Et c'est là aussi, Dieu résiste aux orgueillés. Mais fait grâce aux hommes. Aux humbles plutôt. Ça, vous devez éviter aussi cela. Quand on vous parle, il faut éviter. Parce que Dieu résiste aux orgueillés, dit la Bible. 7e, mauvais entourage. Le mauvais entourage peut aussi vous causer du tort. Le mauvais entourage peut amener du tort dans votre vie. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, je crois verset 33. Et la Bible dit aussi, celui qui fréquente les sages devient sage. Proverbe 13, verset 20. Donc, si vous êtes mal entouré, vous allez voir que le mauvais entourage que vous avez va provoquer des erreurs dans votre vie et vous évoluez avec ces erreurs. Alors que ces erreurs-là viennent parce que vous êtes mal entouré. C'est pourquoi les gens sages s'entourent de bonnes personnes. Vous savez, ce qui a créé la grande erreur de Salomon, c'est Roboam. Roboam ne voulait pas s'entourer de vieux qui étaient avec son père. Il voulait s'entourer des jeunes de sa génération. Et il a écouté le conseil des jeunes que le conseil des anciens qui étaient avec son père. Et là, Dieu a dit, je vais séparer les royaumes. je te laisse 2 tribus et le 12 tribu je donne à ton serviteur. C'est ce qui a séparé le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Et lui, il est resté avec 2 tribus, Juda et Benjamin. Et le serviteur de son père Jéroboam est parti avec 10 tribus. Ils ont formé Israël. Et ils ont formé Juda. Pourquoi? Parce que il n'a pas écouté les conseils des sages. Donc il faut être bien entouré. Et 8e, manque de vision ou manque d'orientation. La plupart des gens, ils n'ont pas l'orientation. Ils n'ont pas la vision. Proverbe 29, verset 18, dit que un peuple sans vision est un peuple sans frein. Donc il faut savoir où tu vas. La Bible dit dans Jean 8, verset 14, je sais d'où je viens et où je vais. Ça, c'est Jésus qui a parlé. Mais vous ne savez pas où je vais. Il faut savoir où tu vas. Je viens d'où? Je suis où? Je vais où? Dans la vie. Difficile qu'à un moment, reste un peu seul toi-même. Pose-toi des questions. Dans ta chambre, tu es tout seul. Dans ta salle de bain, tu es tout seul. Tu te dis, d'où je viens vraiment? D'où j'étais? D'où je suis maintenant? Et où je vais aller? Donc, il faut se poser cette question. Il ne faut pas rester comme ça sans question. Parce que quand vous lisez dans Luc, chapitre 9, verset 51, Jésus, lorsque ce jour commença à s'approcher pour mourir à la croix, la Bible dit qu'il alla à Jérusalem où il devait mourir. Donc, quand les jours avancent, quand notre âge avance, vous devez commencer à penser déjà à ça. Vous devez commencer à réfléchir à une vision de demain. C'est très important. Et 9e erreur, le fait de bâtir sans Dieu. Quand on veut bâtir, mais on bâtit sans Dieu, on bâtit soi-même. Donc on n'associe pas Dieu. Ça aussi, c'est le danger. Il ne faut pas bâtir sans Dieu. Il faut bâtir avec Dieu. Pour Psaume 127, si l'Éternel ne bâtit pas, celui qui bâtit, bâtit en vain. Ça aussi, c'est la 9e erreur qu'on fait. On cherche à faire la chose, mais Dieu n'est pas dedans. Tu fais toi-même. Malheur à celui qui va vers l'Égypte, qui consulte l'Égypte, qui prend des décisions sans moi, qui fait la volonté humaine, la volonté de l'Égypte, sans ma volonté. Ésaïe 30, verset 1er. Il faut faire très attention. Et finalement, 10e, refuser de corriger. Le refus de corriger ce qu'on a fait. Ou le refus de corriger la trajectoire. Le refus de corriger sa trajectoire. Ou rebâtir. Pourquoi je ne peux pas corriger ma trajectoire si cette trajectoire a des erreurs? Le problème, que des fois, le chemin qu'on a pris, les trajets qu'on a pris, c'était mauvais. Est-ce que je dois continuer avec? Mais non, si je vois que le trajet était mauvais, je dois corriger. C'est là qu'on appelle le rebâtissement. Je dois les corriger pour rebâtir. C'est pourquoi Dieu nous montre dans le livre de Jérémie, chapitre 18. On voit là-bas un potier qui fabriquait des vases. Ça n'a pas resté la forme la première fois. Il a repris. La deuxième fois, il a repris. La troisième fois, il a repris et puis il a réussi. Donc même si tu as échoué 4, 5, 6 fois, mais tu as droit à reprendre. Tu as droit à redresser. Tu as droit à rebâtir. Je disais à une femme, même si tu as fait 3 fois le mariage, mais il est possible que le 4e soit le meilleur mariage. Mais oui. Vous allez me dire, ah non, non, mais c'est une vérité. Parce que des fois, tu as fait des choses par tes sentiments. Des fois, tu as fait des choses parce qu'on t'a poussé. Des fois, tu as fait des choses parce que la famille a parlé, parce que les amis ont parlé. Mais non. Ou peut-être les émotions. Mais cette fois-ci, tu fais des choses à bon escient. Tu as bien réfléchi, tu as bien nourri ton intérieur, tu t'es fixé un objectif, tu dis, je pars avec ça, et tu réussis la chose. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Donc, il y a des choses qu'il faut apprendre. Parce que vous ne voulez pas apprendre. Vous voulez des enseignements qu'on vous dit, demain tu vas avoir, demain tu auras du pain. Non, moi je ne donne pas de tes enseignements. Parce que pour moi, c'est des enseignements qui flattent les gens sans qu'ils restent vraiment dans la chose qui peut les aider. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, j'explique la première erreur. La première erreur, c'est la première erreur que je vais expliquer aujourd'hui. La première erreur que nous appelons la pression des autres. Première erreur. Il faut savoir que les erreurs nous rattrapent toujours, comme je l'ai dit, rattrapent notre vie. Il y a par moments les erreurs que nous faisons, celui d'écouter les gens que d'écouter son propre cœur, que d'écouter Dieu. Mais on veut écouter son entourage. On veut écouter ceux qui sont tout autour. On va voir un verset de la Bible. On veut écouter ceux qui sont autour. On veut écouter ceux qui nous entourent. Alors dans Proverbe chapitre 29, la Bible nous dit quelque chose là-bas. Proverbe 29, verset 25. Proverbe 29, verset 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Je répète le verset. La crainte, mais je vais commencer au verset 23 parce que verset 24, 25 et puis verset 24, 25. La Bible dit, celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Il entend la malédiction et il ne déclare rien. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. J'explique ce texte. La Bible nous dit, celui qui partage avec un voleur, celui-là est l'ennemi de son âme et il entend la malédiction et il ne déclare rien. Si vous vivez avec un ami qui partage les choses mauvaises qu'il a pris, qu'il a volé avec vous, vous partagez, ou votre vous partagez la vie avec un homme qui vole des chèques, par exemple, à l'époque qui volait des chèques, vous partagez la vie avec lui, sans renoncer à ça, vous partagez la vie avec un homme qui vole, par exemple, dans mon pays, qui vole l'argent du pays, vous partagez, sans renoncer, il y a toujours une malédiction qui va venir. Il y a toujours quelque chose qui va se passer. Et la Bible dit, la crainte des hommes tend un piège. Craindre des hommes vous met en piège. Craindre des hommes en disant, si je ne fais pas, il ne sera pas content. Si je ne fais pas, il ne sera pas d'accord. Ça vous tend déjà un piège. Ça vous tend déjà un piège. Donc, il ne faut pas construire la vie si c'est ce que les autres veulent. Mais il faut construire la vie si c'est ce que vous ressentez. Très important. Alors, il y a trois choses qui se passent lorsque la pression des gens vient. Premièrement, vous devez éviter le conformisme. J'explique. La première chose qui se fait, c'est le conformisme. C'est quoi ce conformisme? Le conformisme, c'est ce que la société veut. C'est ce que les amis nous imposent. C'est ce que peut-être les parents nous disent. On te dit, tu dois faire ceci. Tu dois faire cela. Tu dois ressembler à tel. Tu dois être comme un tel. Tu dois faire comme un tel. Donc, on nous impose de faire comme un tel, d'avoir comme un tel, d'être comme un tel. Non. Ça, c'est la pression extérieure qu'on appelle le conformisme. Je suis en train d'écrire un livre et tout ce que je suis en train de vous enseigner là. Sur bâtir tout sans bruit. C'est ça le titre de ce livre. Je suis en train d'écrire ça. Donc tout ça, c'est des éléments qu'ils sont en train de tirer dans ce qu'ils sont en train d'écrire. Bien aimé, vous ne devez pas vous égaler à quelqu'un. Vous ne devez pas copier le genre. L'apôtre Paul nous dit dans Galates, au chapitre 1, au verset 10, lorsqu'il a pris, non, verset 10, l'apôtre dit que, l'apôtre Paul, je vais lire le texte, l'apôtre Paul dit que lorsqu'il a été appelé, il n'a pas voulu aller à Jérusalem pour rencontrer les autres anciens. Je lis le texte. Galates, chapitre 1er. Je vais lire chapitre 1er, verset 10. Galates 1er, verset 10. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Alors maintenant, verset 14 et 15, il dit, mais, verset 15, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère et qui m'a appelé selon sa grâce de me révéler à moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne suis pas monté au Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour Arabie. Donc, l'apôtre Paul nous montre que il n'a pas voulu aller d'abord vers ceux qui étaient anciens comme lui pour aller solliciter les conseils avant de faire ce qu'il voulait faire. Non. Mais il est allé selon le plan que Dieu lui a dit. Il est allé selon le plan que le Seigneur lui a dit, afin d'aller prêcher l'évangile. Donc, il n'a pas dit, bon, il faut que j'aille d'abord à Jérusalem, là où il y a les anciens, avant d'aller prêcher l'évangile. C'est pourquoi il dit au verset 10, que maintenant, est-ce que c'est la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Donc, si je cherche la faveur des hommes, donc je ne suis pas serviteur. Donc, la première des choses à éviter, le conformisme. Le conformisme, c'est quoi? Donc, vous voulez qu'on vous impose d'être comme un tel, comme un tel, comme un tel. Quand moi, j'ai glacé, mon père m'a dit, il faut être comme l'enfant d'un tel. On avait un oncle qui était docteur, à Kisantou. Alors, papa me disait, il faut être comme l'enfant de mon cousin. Oui, il est docteur. Mais moi, ce n'est pas mon choix. Je ne le sens pas dans mon cœur. Même si je continue cette île, ça ne sera pas pour moi. Donc, il vous impose de faire ça. Je dis non, ce n'est pas mon choix. Ce n'est pas mon choix. Donc, là, ce sont des choses parce que la société nous impose un modèle de vie. Il nous impose un modèle de vie. Il faut avoir ça, il faut être ça. C'est pourquoi vous voyez dans 1 Samuel chapitre 8, verset 4 à 5, les anciens d'Israël sont allés vers Samuel en disant, donne-nous un roi comme toutes les autres nations l'ont aussi. Ne demandez pas parce que les amis ont ça, parce que ton ami a ça, parce que ton ami haït ça, parce qu'il a telle vie que toi tu dois avoir la même vie. Non, chacun a une vie, tu n'es pas une copie de toutes les façons. Sache que toi tu n'es pas une copie sur cette terre, tu es l'original avec ce que Dieu a dit pour toi. Tu n'as pas besoin de suivre quelqu'un, sinon tu vas perdre la destinée, tu vas perdre des choses et tu vas t'es glissé dans une grande erreur parce que tu bâtis selon ce que tu vois chez les autres, mais tu ne bâtis pas selon ce que Dieu est en train de te dire. La vie, chacun doit le faire librement selon qu'il le consent. Arrêtez, même les enfants, quand nous les conduisons, nous disons, fais ça. Si vous sentez qu'il ne veut pas faire cette option-là, laisse l'enfant aller dans ce qu'il veut faire. Conseillez et laissez-le aller dans ce qu'il veut faire, parce que c'est là où il se sent mieux. Donc, ça, ce sont des éléments, des fois, qui créent des problèmes. Donc, le conformisme, il faut éviter ça. Deuxièmement, la recherche de validation. Quand il y a la pression autour de vous, vous allez remarquer qu'il y a aussi la recherche de validation auprès des autres. Est-ce que c'est Pelinde Nassali? Est-ce qu'ils sont contents de comment j'ai fait? Donc, tu commences maintenant à travailler, pas pour toi, mais pour que les autres puissent t'accepter. Jésus a dit dans Jean 5, verset 41, Jésus a dit qu'il ne cherchait pas la gloire des hommes, mais il cherchait la gloire de Dieu. Paul aussi vient de nous dire cela. Donc, il ne cherchait pas la gloire des hommes, mais il cherchait la gloire de Dieu. Il ne cherchait pas les applaudissements des hommes. Il y a des gens qui veulent qu'on les applaudisse. Même si on m'a bêtu, on m'a bougé, ça n'a ni na vie na yo. Même si on acclame pour toi, ça va faire quoi dans ta vie? Il y a des gens qui aiment qu'on les acclame. Non! Moi, je n'aime pas qu'on m'acclame. D'ailleurs, ce n'est pas dans ma nature. Quand Dieu fait quelque chose avec moi, Je n'aime pas que les gens en parlent beaucoup. Je préfère que la personne commence à témoigner lui-même. Donc, cela veut dire que il faut ne pas accepter l'approbation des gens. Parce que les gens veulent être validés par les gens. Hein? Bandimio, ils ont apprécié, hein? Ils ont accepté. Comment ils ont vu? C'était bon, hein? Hein? J'ai bien travaillé, hein? Oui, oui. Yeah. Même si tu es en erreur, toi, tu crois que tu es dans le vrai parce que les gens ont appuyé. Ne cherchez pas la validation des gens extérieurs. C'est des erreurs graves. Tu cherches la validation des gens extérieurs. Au lieu de chercher la validation de Dieu, ça, c'est des erreurs qu'il ne faut jamais commettre. C'est dangereux parce que ça va t'amener dans l'égarement. Ça va t'amener plutôt à être applaudi par les hommes, mais pas à être applaudi par Dieu. Paul aussi dit, je ne cherche pas la gloire des humains. Paul cherchait la gloire de Dieu. Donc, il ne faut pas chercher la validation des humains. Et troisième point, la comparaison. Pendant que vous bâtissez, ne cherchez pas à vous comparer. Ne faites pas de comparaison avec les autres. Vous savez, l'apôtre Paul nous dit, nous ne sommes pas ceux qui se comparent à d'autres. On va lire le verset. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 12. Nos 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Nous ne sommes pas ceux-là qui se recommandent. Voilà. La Bible dit, nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Paul dit, nous n'osons même pas nous égaler, nous comparer, nous égaler à d'autres. En faisant cela, il manque l'intelligence. Donc, il ne faut pas s'égaler, il ne faut pas se comparer aux gens. Toi, tu es unique. Pourquoi tu veux te comparer? Pendant que tu bâtis, tu es en train de te comparer. Tu compares ta maison avec l'autre. Tu compares tes affaires avec les affaires des autres. Non, 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 non. Ne compare pas avec les autres. Toi, bâtis ta vie pour obtenir tes propres résultats qui seront différents des autres. Mais ne bâtis pas en se comparant aux autres. Et ça, tu es en train de te détruire sans le savoir. Vous savez, une chose qui s'était passée, Jésus, dans le livre de Jean, je vais chercher un peu le verset, je pense chapitre 21. Chapitre 21, certainement. Dans Jean 21, vous allez remarquer que Jésus était en train de parler à Pierre. Même tu... Oui, il a répondu. Et après, la Bible dit que Pierre a vu Jean, le disciple que Jésus aimait. Il a demandé au Seigneur Jésus, et lui, qu'est-ce que son... Parce que Jésus a dit à Pierre, Pierre, quand tu seras vieux, maintenant que tu es jeune, tu marches tout seul, mais quand tu seras vieux, il y a quelqu'un d'autre qui va étendre ta main, qui va t'étendre la main, qui va te prendre, et qui va te conduire là où tu ne veux même pas. Maintenant, lui, quand il voit maintenant Jean qui vient derrière, Jean était celui qui mettait la tête sur la poitrine de Jésus. Là, Jésus est déjà ressuscité. Hein? Alors, il dit, et maintenant lui, qu'est-ce qu'il lui faut? Quel sera son sort? Écoutez la réponse de Jésus maintenant. Verset 20, Jean 21, verset 21 et 22. Et le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il y demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Donc, il dit, mais Seigneur, bon, maintenant lui, si moi, tu me dis que quand je serai vieux, il y a quelqu'un qui va me tenir la main pour me tirer. Maintenant, lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Jésus lui dit, peu importe, hein, il dit, qu'il y demeure jusqu'à ce que je vienne. Que t'importe, toi suis-moi. Je veux dire, que qu'est-ce qui est important pour toi? Suis-moi seulement. Ça ne te concerne pas. Suis-moi. Donc, ici, Jésus montre que Pierre a tendance aussi de savoir, lui, qu'est-ce qui va lui arriver, et lui, qu'est-ce qui va lui arriver. Si moi, tu me dis qu'on va me tenir par la main, mais maintenant, lui, non, ne cherchez pas à vous comparer aux gens. Chacun a son sort qui lui est réservé. Tout ce que je viens de dire là, ce sont des erreurs que nous commettons pour la plupart. La plupart sont des erreurs que nous commettons. Et le deuxième de tout ça, j'ai expliqué la pression des autres. Et pour clôturer, j'explique les deuxièmes erreurs qu'on appelle le manque de connaissance de soi. Quand je parle de manque de connaissance de soi, ça ne commence pas par aujourd'hui. Moïse ne savait pas qu'il était fait Dieu devant Pharaon. Moïse ne savait pas que les bâtons qu'il avait en main pouvaient produire les miracles. Dieu lui dit, jette les bateaux par terre. Il jette, les bateaux se changent en serpent et commencent à fuir. Parce qu'il ne savait pas que Dieu utilisait ce qu'il avait. Des fois, on est ignorant de ce qu'on a. On a envie ce que l'autre a, mais ce qui est près de toi, tu le négliges. Donc, cela, ça fait partie des manques de connaissance de soi. Nous allons prendre aussi Gédéon, à qui on a dit, tu es héros. Mais lui s'est dit, mais je suis pauvre, notre famille est pauvre, nous sommes les plus petits de la famille. Donc il ne comprenait pas que les capacités qu'il avait en lui faisaient de lui un héros. Donc et souvent on ignore. Je prends encore Jérémie. Jérémie, on lui dit, tu es prophète des nations. Lui dit, ne dis pas que je suis prophète des nations, je suis encore un enfant. Parce qu'il ignore les capacités qui sont en lui. Ignorez les potentiels que vous avez. Ignorez les capacités que vous avez. Ignorez ce que vous êtes. Vous met déjà en déclin. Vous met déjà en position de faiblesse. Parce que vous ignorez ce que vous avez en vous. Vous ignorez ce qu'il y a en vous. Vous ignorez ce que vous êtes. Vous ne devez jamais ignorer ce que vous êtes. Vous êtes plus fort. Vous êtes plus puissant. Vous êtes né pour triompher. Vous êtes né pour dominer. Vous êtes né pour régner. La Bible dit, Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10, que vous avez été rachetés de toutes les nations. Jésus a racheté les hommes de toutes les nations, de toutes les tribus, de tout peuple, par son sang. Il a fait un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Et il y régnera sur la terre. Vous n'avez pas été racheté pour être dominé. Vous n'avez pas été racheté pour être contrôlé par des problèmes. Vous n'avez pas été racheté pour être dominé par des esprits, par des situations qui vous contrôlent, par des démons. Mais vous avez été racheté pour dominer, pour contrôler, pour mater les situations, pour dire assez. Je dois régner. Assez, je dois bâtir ma vie. Je suis né pour bâtir. Je suis né pour aller de l'avant. Je suis l'artisan de ma propre vie. Je suis l'architecte de mon avenir. Tu ne peux pas me donner des ordres. Je vais aller plus loin avec Dieu. Ça, c'est un homme qui a compris. Tu ne peux pas accepter. Parce que quand tu ne comprends pas ce que toi tu es, tu commences à céder la raison à d'autres personnes. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi te dire ce soir que tu dois avoir la connaissance de soi-même. Peut-être tu t'ignores. En toi, il y a la puissance infinie. Selon ce que dit la Bible dans Éphésiens 1, versets 17 à 19. Quel est envers vous qui croyez l'infini grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par la vérité de sa force. Donc, en vous, il y a la puissance qui opère. En vous, il y a la force qui opère. Vous êtes né pour régner. Vous êtes né pour devenir grande personne. Vous êtes né pour construire. Vous êtes né pour redresser. Et en plus, Dieu dit, Amos chapitre 9, verset 11, je redresserai les ruines de la maison de Jacob. Enlève le nom de Jacob. Je redresserai les ruines de la maison d'un tel. Veut dire, là où tu sens qu'il y a des problèmes, là où tu sens qu'il y a des difficultés, Dieu te dit maintenant là, Dieu dit, je commence maintenant à redresser toutes les situations là que tu sens que c'est des ruines. Quel aspect de ta vie qui est ruiné? Quel aspect de ta vie qui est en ruine? Dieu dit, je vais commencer à redresser les mensonges des gens. La pression qu'on nous met sur la tête, la pression qu'on nous met, fais ça, deviens cela, fais ceci, cela, fais cela pour que tu obtiennes cela. Ce sont des mensonges pires et simples. Dieu ne nous met pas de pression pour bâtir la vie. Mais Dieu nous dit que chaque personne bâtit sa maison. Et chaque personne est responsable de sa vie. Arrêtez vos enseignements qu'on vous dit, si tu es comme ça, c'est parce que ta mère qui t'a fait comme ça. Si tu es comme ça, c'est ton oncle. Écoutez, même si c'est mon oncle, même si c'est ma mère, même si c'est mon mari ou ma femme qui est à la base de ma misère, mais je suis capable de m'en sortir avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, je ferai des exploits, dit la Bible. Pourquoi vous voulez prendre la vie, votre vie, les céder à quelqu'un, donner la responsabilité à quelqu'un d'autre? Quelle est votre part? Vous avez la responsabilité de redresser votre vie. Vous avez la responsabilité de bâtir votre vie. Regardez les erreurs que vous avez faites quand vous avez commencé à bâtir la vie. Peut-être vous avez posé une mauvaise fondation. Peut-être vous avez fait des choses mauvaises. Une mauvaise orientation. Des mauvaises décisions que vous avez prises brusquement, sans réfléchir. Tout cela sont des éléments qui peuvent être à la base. Alors c'est l'heure de redresser. Il faut redresser là où tout était ruiné. Tout était ruiné, mais tu peux redresser. Tu peux refonder la vie. Tu peux redresser la vie. Tu peux rebâtir la vie. N'as-tu pas vu quelqu'un qui a échoué plusieurs fois, il réussisse? N'as-tu pas vu quelqu'un qui a raté, il réussisse? Dans la Bible, il y en a beaucoup. Même dans le monde. Ce n'est pas parce que tu as eu des échecs dans plusieurs fois que la vie ne sera plus comme. La lumière que vous voyez, les ampoules que nous utilisons. Thomas Edison a échoué 9909 fois ou 99 fois. Et à la fin, il a réussi. Donc, il n'est pas le premier qui a échoué. Les échecs ne sont pas la fin. Les déceptions ne sont pas la fin. Les erreurs ne sont pas la fin. Au contraire, cela t'aide à voir comment il faut rebâtir de nouveau. Pour y aller. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que tu puisses atteindre le niveau qu'il a préparé pour toi. Abraham n'a pas fait des erreurs. Il a fait. Moïse n'a pas fait des erreurs. Il a fait. David n'a pas fait des erreurs. Il a fait. Tout le monde a fait des erreurs. À part Jésus. Mais à la fin, ils ont réussi. Ils ont eu la victoire. Bien-aimés, nous avons besoin de rebâtir notre vie, de redresser après des erreurs. Regarde les erreurs que vous avez faites. Parle à Dieu maintenant. Seigneur, je comprends. J'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie. Maintenant, je vais rebâtir. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Avec toi, je réussirai. Vous allez voir, Néhémie est allé rebâtir là où les fondations étaient déjà toutes détruites. Mais Néhémie est allé rebâtir. Tu peux rebâtir la vie. Tu peux rebâtir les aspects qui étaient détruits. Tu peux rebâtir les aspects que tu sens que ça ne va pas. C'est toi qui as le pouvoir de les rebâtir. Avec les décisions que tu as. Avec les paroles que tu dis. Avec le temps que tu mets. Tout cela, ça peut... Tu peux les rebâtir. Peut-être que tu as fait des erreurs, comme j'ai expliqué toutes ces erreurs, les 10 erreurs que j'ai énumérées. Mais tu peux rebâtir la vie. L'entêtement ne sert à rien. Le manque de gestion de temps ne sert à rien. L'orgueil, tout cela ne sert à rien. Le mauvais entourage ne sert à rien. Le manque de vision, tout cela, il faut mettre de côté. Rebâtir à zéro. Rebâtir à zéro rase la fondation. Dieu ne nous demande pas quand on rebâtit de reconstruire au-dessus de la fondation qui est détruite. Il nous dit de raser pour reprendre à zéro. Quand on vient en Jésus, on a fait des erreurs. Raser, reprenez à zéro, ce n'est pas un problème. Ne dis pas, j'ai déjà fait 50 ans dans le Seigneur. Non. Raser, reprenez à zéro. Et ça va vous aider pour aller plus loin. Ce soir, je vais prier pour quelqu'un qui veut redresser sa fondation. Peut-être la fondation est détruite. Des déceptions sont présentes dans ta vie. Beaucoup de difficultés. Mais tu as besoin ce soir de les redresser. Redressement des fondations qui sont détruites. Regarde les erreurs que tu as faites. C'est là où tu vas prier le Seigneur. Seigneur, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je suis conscient de mes erreurs. Mais aujourd'hui, je vais rebâtir avec toi. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Psaume 60, verset 14. Je vais rebâtir avec toi. Seigneur, aide-moi à bâtir avec toi. Moi, je ne perds rien. Si toi, tu ne bâtis pas, moi, je ne perds rien. Maintenant, Seigneur, je vais bâtir la vie avec toi. J'ai tellement fait d'erreurs. J'ai tellement fait d'erreurs que je ne peux pas. Seigneur, je ne saurais même pas te dire toutes les erreurs que j'ai faites. Mais je viens à toi, bâti avec moi. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi, Père éternel, parce que notre Dieu, nous te prions parce que c'est toi qui bâtisses. Si toi tu ne bâtis pas, celui qui bâtit, bâtisse en vain. Si toi tu ne bâtis pas avec nous, Seigneur, quiconque bâtit, bâtisse en vain. Éternel Dieu des armées, je viens à toi, Papa. Je viens à toi, Seigneur. Si toi tu ne bâtis pas, Père, qui va bâtir, Seigneur? Qui va bâtir, mon Dieu? Seigneur, je viens à toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à bâtir. Aide-moi, Seigneur, à bâtir. Oh Dieu, je viens à toi, Père. Je viens à toi pour bâtir, Seigneur. J'ai commis des erreurs dans ma vie. J'ai commis des erreurs dans mon ministère. J'ai commis des erreurs dans ma vie, Seigneur. Mais je viens à toi qui bâtis, Seigneur. Tu as dit, si l'Éternel ne bâtit pas, celui qui bâtit, bâtit en vain. Je veux bâtir avec toi, Seigneur. Dans tous les aspects de ma vie, Seigneur, j'ai commis des erreurs. J'ai commis des erreurs dans ma vie, Seigneur. Mais je viens, Père éternel, pour te dire, oh Dieu, que je veux bâtir avec toi. Je veux bâtir avec toi. Moi-même, je ne perds rien, Seigneur. Moi-même, je ne perds rien, Seigneur. Mais si toi, tu ne m'aides pas à bâtir, Papa, qui va bâtir? Qui va bâtir si toi, tu ne m'aides pas? Qui va bâtir si toi, tu ne m'aides pas, Seigneur? Oh Dieu, pourquoi tu me laisses, Seigneur? Maintenant, je veux que tu bâtisses avec moi, Papa. Que tu bâtisses avec moi, mon Seigneur. Que tu bâtisses avec moi, mon véritable Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Les erreurs ont été faites, Père éternel. Les erreurs ont été faites, Père éternel. Depuis notre jeunesse. Mais Père éternel, aide-nous, Papa. Aide-nous, Papa. On a fait tous des erreurs. Mais Seigneur, nous sommes des humains. C'est pourquoi nous tournons vers toi. Toi, le Dieu parfait, le Dieu saint. Aide-nous, Père, à rebâtir la vie. Aide-nous, Seigneur, à rebâtir les aspects qui étaient détruits. Rebâtis les Seigneurs. Car toi, tu as dit, si l'Éternel ne bâtit pas, celui qui bâtit, bâtit en vain. Aide-nous à rebâtir, mon Dieu. C'est toi qui as dit dans ta parole, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est toi qui as dit dans ta parole, chaque maison est bâtie par quelqu'un. Mais celui qui fait toutes choses, c'est Dieu. Éternel Dieu, sers-toi de nous comme des pierres utiles pour la construction. Comme des pierres utiles pour la construction. Seigneur, bâtis. Bâtis avec nous. Bâtis avec nous. Nous-mêmes, nous sommes incapables. Nous sommes incapables. Avec toutes les erreurs qu'on a commises, Seigneur. Oh mon Dieu, tu es là pour nous aider. Tu es là pour nous aider, Papa. Tu es là pour nous aider, Papa. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à bâtir avec toi. À bâtir avec toi, Papa. À bâtir avec toi, Seigneur. Ne nous abandonne pas. Ne nous laisse pas, Papa. Aide-nous à bâtir avec toi, Père. Aide-nous à bâtir avec toi, Seigneur. Aide-nous à bâtir avec toi, véritable Dieu. Aide-nous à bâtir, Père. Après que nous avions commis des erreurs. Après que nous avions commis des fautes. Après que nous avons commis beaucoup de choses. Mais Père, tu veux que nous puissions bâtir ensemble. Papa, aide-nous à bâtir. Papa, aide-nous à bâtir. Papa, aide-nous à bâtir. Oh mon Dieu, aide chacun de nous. Aide chacun de nous à bâtir, mon Dieu. Nous étions des fois orgueilleux. Nous refusons d'écouter. Mais mon Seigneur, aide-nous à bâtir. Aide-nous à bâtir. Aide-nous à bâtir, Seigneur. Peut-être nous étions mal entourés. Seigneur, mais aide-nous à bâtir. Mon Dieu, mon roi, si tu regardes nos erreurs, tu ne vas pas nous écouter. Mais Seigneur, purifie-nous, pardonne-nous. Accepte-nous, Seigneur, que nous devenons de vrais bâtisseurs de la vie. Nous devenons de vrais bâtisseurs de la vie, Seigneur. Toi, tu as dit que nous bâtirons, Seigneur, de champs nouveaux. Éternel Dieu des armées, aide-nous à bâtir, Seigneur. Aide-nous à bâtir, Seigneur. Tu as dit que nous serons appelés réparateurs de brèches. Tu as dit que nous serons appelés réparateurs de brèches. Fais de nous des réparateurs de brèches. Fais de nous des réparateurs de brèches. Fais de nous des réparateurs de brèches. Oh mon Dieu, là où, Seigneur, les choses étaient détruites, que par nous que tu les répares. Que par nous que tu les répares. Ou par nous, c'est là que tu les répares. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Merci, mon véritable Dieu. Merci, Papa, parce que tu rebâtis. Merci papa parce que tu rebâtis. Merci parce que tu rebâtis. Merci tu rebâtis avec nous. Oh mon Dieu, rebâtis avec nous papa. Rebâtis, rebâtis avec tes serviteurs. Rebâtis avec tes serviteurs. Rebâtis avec tes serviteurs. Rebâtis avec ton peuple Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Sois adoré, sois loué, sois glorifié, sois magnifié infiniment. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon véritable Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Éternel Dieu des armées, c'est toi le bâtisseur. Si toi tu ne bâtis pas avec nous, celui qui bâtit, bâtisse en vain. Nous avions commis beaucoup d'erreurs dans nos vies. Des fois, nous cherchons le bouc émissaire pour dire c'est un tel la faute, c'est à un tel la faute. Mais cependant, nous ne faisons pas attention aux erreurs que nous avions posées pendant que nous construisons. Ces erreurs continuent à nous rattraper aujourd'hui, Seigneur. Mais nous te prions, oh Dieu, de nous aider maintenant, Seigneur, à rebâtir. Efface tous nos péchés, toutes nos iniquités. Efface, Seigneur, tout ce que nous avions fait de mauvais. Mais aide-nous à rebâtir avec toi, avec les nouveaux fondements, avec de nouvelles constructions. Aide-nous, Seigneur, à rebâtir, car toi, tu as dit, je rebâtirai les ruines de la maison de David. Aujourd'hui, ce n'est pas David. Aujourd'hui, c'est moi, c'est mon frère, c'est ma sœur. Seigneur, viens pour rebâtir la maison de chacun. Viens pour rebâtir la vie de chacun. Viens pour rebâtir la santé de chacun. Viens pour rebâtir, Seigneur, tout ce que chacun est en train de faire, ce qu'il est en train d'attendre de toi, Seigneur. Viens, Père, pour rebâtir. Oh, Dieu rebâtisseur, toi qui rebâtis la santé des gens, toi qui rebâtis la vie des gens, toi qui redresses tout ce qui était courbé, Seigneur. Viens pour redresser. Viens pour rebâtir, Seigneur. Et nous allons témoigner ta grandeur. Merci, Père, pour ce que tu as fait. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué infiniment dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et les rendez-vous, c'est la journée de vendredi où nous commençons notre séminaire à 20h30. Que Dieu vous bénisse grandement, grandement. Soyez bénis infiniment, encore infiniment. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Jésus vous bénisse grandement. Merci. À vendredi à 20h30. Merci beaucoup.